Il y a le fait d'être atteint du Covid, il y a le fait de risquer d'en mourir, mais effectivement, en réchapper après un séjour en réanimation, c'est pas non plus sans séquelles, physiques et psychologiques.
L'épidémie de Covid a désormais fait officiellement près de 120 000 morts en France depuis le début de l'année 2020. Mais on n'en finit pas de compter d'autres victimes qui, si elles n'ont pas perdu la vie, traversent néanmoins de graves difficultés. Les effets du Covid long continuent à se faire sentir pour de nombreux malades des mois et des mois après leur première infection et on n'en connaît toujours pas les causes précises. Moins connus, mais au moins aussi dévastateurs, sont les effets de la réanimation. De nombreux patients développant une forme grave de la maladie ont dû être admis dans les services spécialisés des hôpitaux. Et comme le disaient les médecins réanimateurs depuis le début de la crise, une réanimation est tout sauf un acte médical banal. Au point qu'on évoque pour les malades un syndrome post-réa. Il se manifeste par des troubles du sommeil assortis de cauchemars, des souvenirs d'expériences effrayantes, des états anxieux, voire une véritable dépression.
Je voyais des rats sur mon lit. Ma fille me disait, maman, il n'y a pas de rats. Je disais à mon enfant, mais tu vois pas les gerbilles qui sont là, sous l'armoire. Il me mettait la main et disait, Rose, il n'y a rien sous l'armoire. Alors j'étais sur un bateau, un navire hôpital. Pourquoi un navire hôpital?
Suivant les études, au moins un tiers de patients ayant séjourné en réanimation seraient affectés par ce syndrome. L'Observatoire régional de la santé en Provence-Alpes-Côte d'Azur évoque même un pourcentage de 50 à 70%. Il est très comparable à celui vécu par les victimes de catastrophes naturelles, de guerres ou d'attentats. Des milliers de malades sont directement affectés et naturellement, leurs proches, devenus des aidants, en sont des victimes indirectes.
On ne montre pas et on est là, on vit pour les autres quelque part. Et quand maman est rentrée à la maison, le fait de l'avoir aidée presque pour tout au début, ça m'a, soigné, je l'ai récupérée. J'ai mis du temps à prendre conscience qu'elle était vivante. Et à partir de ce moment-là, après, non, j'ai l'impression d'avoir été guéri à ce moment-là.
Les soignants qui ont identifié le phénomène commencent à s'organiser. Vanessa Descoureaux arrive à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, où certains de ses patients sont pris en charge.
Interception, le magazine de reportage de la rédaction.
Alors, bienvenue à SRPR, c'est notre petit service. Là sont les chambres qui sont vides, manque de personnel.
L'entrée dans le service, ça commence par 4 lits vides, fermés, par manque de personnel paramédical. Voilà, exactement. Là tout de suite on sait où on est.
Exactement.
SRPR pour soins de rééducation post-réanimation. Nous sommes ici dans l'unité de l'hôpital parisien de la Pitié-Salpêtrière. Ici, on va trouver des patients qui sortent d'un séjour souvent assez long en réanimation. Et par conséquent, les séquelles, et notamment psychologiques, sont souvent très ancrées chez eux.
Du coup, là, c'est les postes des médecins. Ici, c'est notre poste des soins. Vous voulez rentrer ? Coucou, Asa, je t'embête. Bon, c'est ici on se retrouve en général. Parfois, les staffs de matin à 10h30, on les fait ici.
On remarque les caméras placées dans les chambres.
Dans les chambres, dans lesquelles on voit les patients. Alors, qui on va aller voir? Lui. Et peut-être lui.
On suit Sarah Castellano, la psychologue du service.
C'est un monsieur très intéressant parce que lui... Ça fait 3 semaines à peu près qu'il est chez nous. Et au début, c'était très difficile. L'atterrissage était très, très long. Et là, il est dans l'échange. C'est un monsieur qui vit des angoisses d'étouffement. C'est ce qui est très commun chez les patients sortant de Covid. Et chez lui, je pense qu'il a une dimension traumatique parce que même là, tout, ça fait réactualisation de quelque chose. Et du coup, ça les met dans des états critiques. Même tout, très simple, l'effet de tousser, il s'arrête de respirer. Il a peur de s'étouffer. Donc, l'angoisse, la panique, la crise...
Le conduit à arrêter sa respiration.
C'est quelque chose qui arrive à répétition chez lui, chez monsieur, chez ses particuliers, qu'il a des difficultés de sommeil majeures et parce que la peur de mourir étouffait dans son sommeil. Donc, il ne dort pas. Vous allez voir ?
Monsieur,
je vous présente Vanessa.
Jérémy, Vanessa.
Voilà. Au début, vous étiez un tout petit peu confus. Et ça, c'est normal. Et après, vous avez vu comment petit à petit, au début, on ne reconnaît pas les gens. On ne sait pas qui c'est. On ne sait pas soi-même qui on est. Et petit à petit, on commence à se rendre compte où on est, si c'est les jours, si c'est la nuit. Et ça revient. Oui. Vous avez vu. C'était un peu difficile pour vous de reconnaître votre corps.
Oui.
Ça viendra. Ça viendra. Qu'est-ce qui vous fait mal aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous fait des douleurs?
Les pieds.
Les pieds?
Oui. Hier, je traverse le couloir.
Oui.
Mais aujourd'hui, même pas 20 mètres.
Il y a des jours où ça va plus fort. Il y a des jours où on est un tout petit peu plus fatigué. Mais ce n'est pas un échec.
Ok.
D'accord?
Merci.
Ce patient est resté plus d'un mois dans le coma. Sarah Castellano reste 45 minutes à ses côtés pour l'écouter, pour le rassurer. Au final, il parvient à écrire en grec le prénom de sa psychologue.
Et le sommeil?
C'est bon pour ça.
Oui, petit à petit. C'était mieux cette nuit, il paraît.
C'est la première nuit que j'ai dormi très très bien. C'était impeccable.
Qu'est-ce qui a changé?
Avant-hier, je dormais bien aussi.
Mm-hmm.
Sauf le matin, quand j'ai réveillé, j'ai commencé à tousser. Il y a des crashs. Je n'allais pas
aller sortir, comme on avait dit. Oui,
j'étais étouffé ou paniqué. C'est dur.
On est là. On est là. Merci et beaucoup. On ne vous lâche pas. D'accord?
Merci beaucoup.
On est là. Je passe vous voir tout à l'heure.
Ok.
Je suis Sarah Castellano, psychologue au service de rééducation post-réanimatoire de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Je travaille dans les bâtiments EOL.
Est-ce qu'il y a une spécificité à la sortie de la réa pour les patients atteints du Covid?
Depuis la première vague, on constate que les réveils post-réanimatoires des patients suivis pour Covid ne ressemblent pas un réveil pour un polytraumatisme ou ce qu'on trouve dans la littérature.
Qu'est-ce qu'il y a de différent?
Déjà, les temps, ce qu'on appelle de manière un peu commune, un peu vulgaire, on vulgarise, c'est les temps d'atterrissage. Ce sont des patients qui peuvent avoir un délire, des délires des post-réanimatoires beaucoup plus persistants. La conviction délirante, elle est beaucoup plus importante, sachant qu'un patient des réanimations communes, on va dire hors Covid, ce temps d'atterrissage, c'est entre 48 heures, maximum 4 jours. Or, chez les patients Covid, ça peut durer plus de 15 jours avec cette conviction délirante. En général, c'est beaucoup de persécutions et beaucoup de morts.
Très concrètement, qu'est-ce que vous entendez pendant cette phase-là?
Il est parti à peu près il y a 10 jours, monsieur M, qui est venu à l'hôpital parce qu'il était un soldat pendant que Paris était occupé. Et il nous avait ramené sa tête pour qu'on la soigne parce qu'il a eu une explosion. Et du coup, il nous a ramené sa tête pour qu'on la soigne. C'est un patient qui s'est réveillé des Covid après un moyen à peu près 2 mois de réanimation.
Comment, dans de telles phases délirantes, vous arrivez justement à ramener le patient à la réalité?
Ça prend un peu de temps. Mais l'idée, c'est de contextualiser et voir qu'est-ce qu'il a de sens dans ces délires pour lui. Parce qu'il faut comprendre que dans un délire, pour vous, pour moi, ça peut sembler complètement farfelu, mais pour lui, ça a un sens.
Il y a toujours un sens.
C'est sa réalité. Et confronter cette réalité en lui disant « non, mais c'est pas vrai », non, et c'est violent.
Il y a la période en réanimation, la sortie de réanimation, avec cette période plus ou moins longue de délire, et puis il y a toute la suite.
Alors là, c'est un long travail. C'est un travail, surtout un travail en équipe. L'idée, c'est faire de la prévention, dès que ces traumatismes se développent et s'ancrent dans les temps. Les patients, en général, Covid surtout, ils ont du mal avec cette identité, cette nouvelle identité, qui je suis, à qui ces corps, ils ont perdu parfois 10 kilos, 20 kilos, 30 kilos, ils ne se reconnaissent plus. Et ça, ça peut être traumatique aussi. La mort, c'est la seule représentation à laquelle on n'est pas préparé. Et ici, on la rencontre. Un passage en réanimation, c'est les rencontres avec la mort. De plus ou moins près, mais ça plane au-dessus. Et se rendre compte pour une personne qui a failli mourir, c'est bouleversant. Et c'est important de l'accompagner.
Y compris sur le long terme.
Sur les très longs termes.
Avec les informations, on les appelle. Voilà. Je laisse le téléphone là.
Je m'appelle Julie Delemazure, je suis médecin praticien hospitalier et je suis responsable de l'unité de soins de rééducation post-réanimation respiratoire du service de médecine intensive et réanimation de la Pitié-Salpêtrière.
C'est quoi cette unité en quelques mots ?
C'est une unité dans laquelle on accueille des patients en provenance de réanimation et on accueille une petite partie des patients, ceux qui ont eu le séjour le plus prolongé et qui restent dépendants d'une ventilation via une canule de trachéotomie au décours de ce séjour en réanimation. Donc c'est vraiment les séjours extrêmes. Donc finalement, c'est des patients qui, avant que ce type d'unité existe, restaient dans les réanimations. C'était pas la bonne unité pour eux pour progresser et pour être sevrés du ventilateur.
On a vécu tout au long de cette crise du Covid, avec des indications tous les soirs dans les journaux, tant de personnes en réanimation. Mais est-ce que selon vous, le grand public réalise ce que veut dire un passage en réanimation ?
Non, je pense pas du tout. Et je trouve que le plus compliqué, c'est qu'en plus, les personnes ont le sentiment d'être informées. Parce qu'effectivement, on a eu beaucoup d'images, on a eu beaucoup d'informations, on a eu trop d'informations, on a été submergé d'informations. Le fait d'être atteint du Covid, il y a le fait de risquer d'en mourir, mais effectivement, en réchapper après un séjour en réanimation, c'est pas non plus sans séquelles, physiques et psychologiques. Moi, je suis une très grande croyante du fait que il est important de prendre les patients en charge après la réanimation et que survivre ne suffit pas. Il faut vraiment leur proposer de pouvoir revivre, mais vivre vraiment et d'être pris en charge avec une rééducation spécialisée.
Il n'existe que 3 services similaires pour toute l'Île-de-France.
Alors, parlons des patients. Monsieur M, chambre 14. Vas-y, Bastien, commence.
Ok, donc monsieur M, 70 ans, qui a été admis pour ce drap Covid fin mars, qui évolue plutôt bien sur le plan respiratoire et sur le plan moteur aussi. C'est un patient qu'il faut quand même motiver, parce que des fois, il est pas très motivé. Je lui ai réexpliqué quand même plusieurs fois l'utilité d'aller au fauteuil, la kiné. Mais je pense que la kiné, ils comprennent plus facilement que le fauteuil.
Ok. Voilà. Pour effectivement l'encéphalopathie. Bonjour. Bienvenue. Comment allez-vous? Attendez, asseyez-vous.
Vous êtes
loin. Je me déplace.
On vous
déconne. C'est super.
Je me reconnais plus, là.
Voilà ce qu'on faisait les jeudis après-midi. On était en staff et on parle de tous les malades.
Rose,
oui. Tout le monde ici m'appelle Rose.
Elle a passé un séjour chez nous. Après un séjour en réanimation, je dirais à Bichat.
Deux mois à Bichat en réanimation, oui.
Ah. Donc là, elle est dans un autre bâtiment, elle est en SSR. Et puis elle est venue à pied avec l'ergothérapeute pour nous dire bonjour.
Pour dire bonjour. Bah, j'essaie de remettre un petit peu tout en ordre dans ma mémoire. Parce qu'il y a encore des trous. Mon combat n'est pas fini, mais bon, on avait annoncé mon décès à mes filles, et puis je suis là, alors, que demande le peuple, hein.
Si ça vous va, on fait une photo, comme ça on peut partager à l'équipe, on a un petit
groupe, si vous voulez, ouais.
Parce que tout le monde n'est pas présent, mais tout le monde sera content.
Et ben, merci. Je crois qu'on va m'en sourire dans les yeux, et moi je suis contente.
Parfait. Nickel. Bon, bah super.
Ouais. Nickel.
Thank you.
Alors on a quitté le SRPR pour être cette fois dans une structure plus légère, dans le sens où les gens qu'on va pouvoir rencontrer sont pas loin de rentrer chez eux.
On se revoit.
Bonjour.
Voilà.
Bonjour.
Est-ce que vous, Rosa, vous estimez que psychologiquement, vous avez des séquelles de votre passage en réa?
Alors, oui, et peut-être qu'elles sont en train de s'atténuer au fur et à mesure. Quand je suis arrivée ici, l'infirmière cadre m'a dit, j'ai encore un souvenir de vous quand vous êtes arrivée, c'est votre regard terrorisé. Ma fille me dit la même chose. Elle dit, maman, j'ai vu quand on a fait l'intubation, elle me dit, quand j'ai vu ton regard terrorisé, apeuré, on aurait dit un enfant, et ça a joué beaucoup sur moi, parce que je suis pas quelqu'un à me laisser abattre, déjà, et j'avoue que j'ai des peurs. Ça a été des terreurs, des cauchemars, avec des hallucinations. Et le fait que j'en parlais à mes enfants, ou même aux médecins, et qu'ils me disaient, non, ça n'existe pas, ben ça me travaillait encore plus. Je dis, c'est pas possible, tu deviennes dingue.
Ce qu'étaient ces hallucinations?
Alors, ben, par exemple, tout simplement, je voyais des rats sur mon lit. Ma fille me disait, maman, il n'y a pas de rats. Je disais à mon gendre, mais tu vois pas les gerbilles qui sont là, sous l'armoire? Il me mettait la main et disait, Rose, il n'y a rien sous l'armoire. Ça a été vraiment des angoisses. À un moment donné, dans mes cauchemars, je voyais un suicide collectif des infirmières parce qu'elles allaient perdre leur poste. Mais où c'est que je suis allée chercher des trucs comme ça, vous voyez?
Et ça vous perturbe d'avoir votre cerveau ait donné naissance à ça?
Ben oui, ça me perturbe parce qu'on me dit c'est des rêves. Je dis, non, moi, pour moi, les rêves, c'est quelque chose de beau. Là, ce n'est que du cauchemar. Je n'ai vu que des horreurs. J'ai des angoisses que je n'arrive plus à contrôler.
5 mois après, oui, votre Covid, oui, vous restez angoissée.
Oui, mais de toute manière, on m'a dit que j'en avais au moins pour un an avant de récupérer ma maîtrise de moi-même. Alors là, j'arrive à reprendre un petit peu le dessus,
le contrôle,
et j'en suis bien contente. Mais bon, c'est pas évident. Mais là, bon, maintenant, j'ai retrouvé mon humour. C'est ce que je disais aux infirmières tout à l'heure. J'ai dit, je me suis fait coquette. J'ai dit, on sait jamais si je rencontre un petit vieux par là.
Irina Gorinov, je suis psychologue clinicienne en pneumologie et médecine intensive et réanimation à la Pitié-Salpêtrière. J'étais avec une patiente qui vient de faire son premier repas, qui est extubée depuis seulement quelques jours. Alors typiquement, cette jeune femme-là, je crois qu'elle a 35 ans à peu près. Elle sort de plus de 2 mois de réanimation Covid, intubée, sédatée, en sachant qu'elle était enceinte, donc elle est tombée malade, et que je crois que son petit garçon a dû naître par césarienne en urgence avant qu'elle soit plongée dans le coma, à 6 mois et demi à peu près. Et est en réanimation néonate, et tout le monde pense que l'urgence pour cette femme, c'est de rencontrer son bébé. Ce qui est probablement vrai, et en même temps non, puisqu'elle est dans une urgence première qui est les besoins primaires, la survie, et déjà se retaper un petit peu.
Vous travaillez aussi avec les familles.
Oui.
En première ligne, on pense plutôt aux patients, aux malades, mais les familles aussi, elles traînent leur sac à dos rempli de traumatismes dans cette histoire.
Oui, et moi ce qui me marque toujours, c'est à quel point les histoires sont disjointes entre ce que vit la famille et ce que vit le patient, et que quand le patient se réveille, pour les familles, il y a quelque chose qui se termine, pour le patient, il y a quelque chose qui commence. Un patient qui voit débarquer des gens qui disent « on est hyper content » et qui peut à peine bouger le petit doigt, il comprend pas trop au départ. Donc c'est aussi faire se rencontrer les histoires. Je me souviens là justement, le mari de cette jeune femme dont je parlais, lui je le rencontre, ça fait quelques jours qu'elle est chez nous, et je le vois prostré à côté d'elle, et donc je m'assieds discrètement, et puis je lui dis qui je suis, il me dit « non mais il faut que je gère comme un homme ». Là je le regarde, je lui dis « mais ça veut dire quoi, gérer comme un homme ?» Il me dit que je continue à piloter la vie de famille, que je travaille, que je sois fort, que je pleure pas. Bon, je crois que lui, j'ai dû lui dire à peu près au bout de 5 minutes « non ». Non, vous n'allez pas gérer comme un homme, vous allez gérer comme quelqu'un qui va essayer de survivre. Alors après, il y a toutes ces familles qui ne souhaitent pas, qui refusent, qui justement ont besoin de cette posture de « ça va, on n'a pas besoin, on gère ».
Il y en a aussi, hein, des familles comme ça.
Oh oui, Mais il y a des gens pleins de ressources, des patients et des familles et des soignants. Les psychologues n'existent pas à l'hôpital parce que tout le monde va mal. Et justement, parfois, mon travail, c'est de pouvoir dire, je reconnais que ça tient. Ok, super. Il n'y a pas de mode d'emploi, en fait. Je pars de l'humain et je vois où ça m'emmène, quoi.
Tout le monde ne bénéficie pas d'autant d'attention. Pour la plupart des patients, le suivi psychologique est plus aléatoire. Laurence, une infirmière de 50 ans, a eu un rendez-vous avec un psychologue en sortant de son séjour en réanimation. Et puis, au cours de sa rééducation, elle a été forcée de l'admettre, elle souffrait bel et bien d'un syndrome post-traumatique. C'est chez elle, à Arras, que Vanessa Descoureaux la rencontre en compagnie de son fils Antoine.
Interception, le magazine de reportage de la rédaction.
C'est Vanessa, Laurence.
Alors, bonjour. Vanessa.
Voilà, enchantée Laurence.
Entrez.
La sonnette marchait pas, c'est ça?
Bah, je faisais l'aspirateur, j'ai pas entendu.
Il y a quelqu'un.
J'ai un chat qui me ramène beaucoup de trucs de dehors.
Bonjour.
Antoine, Ludivine. Oh, j'allais secouer ma nappe, c'est les petits poils de chat. Voilà. On va s'installer là, si ça vous va.
Mais c'est parfait.
Hop. J'étais donc dans la clinique en post-réa et on m'a proposé donc un psychologue. Moi, je voyais pas trop l'intérêt. J'avais quelques angoisses, donc je me suis dit j'ai peut-être besoin de calmer un peu ces angoisses. Mais c'est temporaire, hein, puis après ça va aller. Hein. C'était pas du tout à ma demande, hein, donc j'ai vu ce monsieur et lui m'a dit je vous mets en garde. Sachez qu'avec ce que vous avez vécu, donc la mort vue de très très près, hein, quelque part. Hein, tout ce phénomène-là, la réanimation, peut entraîner ce qu'on appelle un stress post-traumatique. S'il vous plaît, il m'a dit, quand vous irez mieux physiquement, après, faites-vous suivre psychologiquement. Et moi, je lui ai dit, on verra. Mais vraiment, j'y croyais pas du tout. Je voyais pas l'intérêt de voir un psychologue.
Les mois s'écoulent. Et puis, à un moment, vous avez besoin ou pas de poursuivre ça, cette alerte qu'on vous avait donnée à l'époque?
Ouais. Alors là, les mois s'écoulent, à mon retour à domicile, hein, début avril, mais mon médecin détecte sûrement des petits SOS que moi, je ne comprends pas. Et mon médecin me demande de rencontrer une psychologue. Mais c'était plus par rapport à mes troubles du sommeil, je dormais pas bien.
Au retour à la maison?
Ouais. Alors, au retour à la maison, c'était toutes les 2 heures, je me réveillais. Parce que toutes les 2 heures, on venait prendre ma tension à l'hôpital. Toutes les 2 heures, on surveillait mes constantes. Donc, à la maison, c'était plein phare toutes les 2 heures. Je me réveillais spontanément. Et puis, des angoisses nocturnes aussi. Et donc, moi, c'était... je vais lui faire plaisir. Mon médecin m'a dit d'y aller, je vais prendre rendez-vous. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc là, je suis allée voir une psychologue, avril, mai, juin, 3 mois après mon retour à la maison, environ. Mais chacun son métier, elle avait bien décelé qu'il y avait quelque chose quand même. Et moi, je me l'avouais pas. Enfin, vraiment, mon combat, moi, c'était le physique. Il faut vraiment que j'arrive physiquement à récupérer. Et le psychologique, ça va aller. J'étais persuadée. Moi, je suis pas quelqu'un qui se laisse aller. Je m'étais dit, moi, j'y arriverai. Côté psychologique, j'y arriverai. Et après est arrivée la deuxième vague, où là, j'ai été anéantie. Et c'est là où vraiment j'ai pris conscience que je souffrais d'un stress post-traumatique.
Vous le comprenez comment? Comment vous réagissez?
Je me sens tétanisée, Là, c'est des cauchemars horribles qui arrivent. Je suis infirmière de métier. Je me retrouve dans un hôpital, que je ne connais pas. On me dit, allez, tu t'occupes de tel et tel patient. J'arrive pas à trouver les patients. Je me retrouve dans la cuisine, dans le local poubelle. Je suis des gens qui disparaissent. Et quand je me regarde, j'ai pas de tenue d'infirmière. Je suis en blouse de boxe, donc en blouse de patient. Et là, je me suis dit, je suis en train de perdre tous mes moyens, perdre ma confiance en moi, je serais plus capable de rien. Donc là, ça a été des doutes horribles. On se réveille en transe, on peut plus respirer, on croit qu'on va mourir. Franchement. Je veux pas affoler les autres parce que les gens se sont déjà assez inquiétés pour moi. Donc je l'ai pas montré, je l'ai pas trop montré. Et là, c'était, mais qu'est-ce que je vais devenir, quoi? Mais qu'est-ce que je vais faire?
Laurence fait alors des séances d'EMDR, cette thérapie par mouvements oculaires, largement reconnue dans le traitement des traumatismes. Laurence trouve ces séances douloureuses. Elle revit de trop près son séjour en réanimation. Elle a recours ensuite à de l'hypnose. Le traitement lui convient beaucoup mieux. Elle retrouve son sommeil. C'est la fin des cauchemars et de son traumatisme. Fin juin, après 15 mois d'arrêt, elle reprend son travail d'infirmière à l'hôpital d'Arras, où elle a été hospitalisée quand elle a été contrainte de laisser son fils Antoine seul avec ses 21 ans à l'époque.
Oui, le point, monsieur, oui. Oui, je suis là. Oui, bonjour. Oui, alors je me parle que vous un peu, je voudrais avoir des nouvelles de Laurence Boulet, la chambre 8, d'accord, son fils. D'accord, qu'est-ce que vous avez dit un peu aujourd'hui?
Alors,
oui, alors, je sais, je vous embête, hein, mais j'ai appelé en début d'après-midi.
Non, mais c'est pour éviter que je me répète, pour savoir un petit peu alors,
le médecin, en gros, il m'a dit qu'elle était stabilisée et que vous comptiez la mettre sur le dos dans l'après-midi. Donc c'était pour savoir si ça avait été fait et si ça allait.
Ok, donc là, elle est sur le dos, elle est consciente, d'accord. Il y a une légère sédation qui en continue, elle nous parle, hein, elle nous comprend très bien, hein, d'accord.
Quoi?
Hein? Elle nous comprend très... Allô, vous m'entendez?
Ouais, je suis un peu sous choc.
Elle parle, non? Non, elle ne parle pas, elle nous comprend, d'accord. Quand on lui parle, elle nous comprend.
D'accord.
Elle est réveillée, d'accord.
Elle est plus dans le coma.
Ah ouais, tu faisais ça?
Bah ouais. Bah donc, j'ai tout, tu...
Donc t'as les autres appels?
Ah bah j'ai tout.
Bah faut que tu me les fasses écouter, j'ai jamais entendu. Oh bah mince alors.
Je pense que je trouvais mon réconfort aux gens que j'appelais pour leur donner des nouvelles de maman et de voir qu'ils étaient contents, ça me faisait du bien. Et... C'est à ce moment-là, c'est, je pense, la seule chose que j'avais. Et après, quand j'ai vu arriver dans l'ambulance avec ses pantoufles et heureuse d'être à la maison, ça m'a... J'ai tout oublié, tout ce qui s'était passé avant, par où j'étais passé, tout s'est effacé. Tout s'est effacé. Ce que ça m'a traumatisé, c'est d'entendre sa mère vous dire « Voilà, je vais mourir. » C'est « Ça va pas. » C'est pas un abandon, mais c'est un peu la face à la situation. Où, voilà, écoute Antoine, ça va pas. Je m'enfonce de plus en plus. Ils vont devoir m'intuber, peut-être cet après-midi, peut-être demain. Mais prépare-toi quelque part à ça. Et je sais pas si c'était. Je pense pas qu'elle a abandonné à ce moment-là, mais ouais, son corps en pouvait plus. Et moi, j'étais au téléphone. Je l'ai mal vécu. Je me suis dit, ok, elle l'abandonne, elle laisse tomber, elle se laisse partir. Ça va pas. Réveille-toi, secoue-toi, bats-toi, ça va aller.
C'est marrant que tu l'aies vu comme ça.
De quoi ?
Bah moi c'était pas un abandon moi de te dire tu sais je vais partir en réa, on va m'intuber, je me bats contre un virus qu'on ne connaît pas, il y a pas de traitement. Moi c'était plus bah écoute si jamais il m'arrive quelque chose, voilà, moi je voulais être sereine puis ben surtout lui dire tout l'amour que j'avais pour lui quoi.
Et ça, ce coup de fil, Antoine, vous avez dit un peu plus tôt que vous essayez de l'effacer. Sérieusement, ouais. On peut effacer ça ?
Non, mais on peut ne plus y penser. Ça va, ma guérison a été faite, je pense. Au début, non, ça l'est pas, mais on montre pas et on est là. On vit pour les autres, quelque part. Et quand maman est rentrée à la maison, le fait de l'avoir aidée presque pour tout au début, ça m'a, je veux dire, soigné, je l'ai récupéré, quoi. C'est vraiment... ce côté-là, quoi, quand t'es revenu de l'hôpital, c'est ok, bon, elle est là, elle est avec moi, elle va bien. Certes, il y a des séquelles, mais elle est vivante. Et j'ai mis du temps à prendre conscience qu'elle était vivante. Et à partir de ce moment-là, après, non, j'ai l'impression d'avoir été guéri à ce moment-là, quoi. Ouais, c'était peur de perdre ma mère, et quand on m'a enlevé cette peur, c'est tout le reste qui est parti. Ouais.
Eh ben, ça fait du bien. Merci beaucoup d'être venu, France Inter.
Ah bah si on peut aider,
Ah ouais, non, mais... non, c'est super, parce que... C'est vrai que t'as du mal à en parler, Antoine, de tout ça. Après, à chaque fois, c'est ressassé. On va pas en parler tout le temps non plus. Je l'adore, mon fils.
J'adore ma mère.
Oh,
c'est
le
principal.
Oh.
J'adore ma mère. On s'entend bien, c'est bon.
19h20, matin, 22.
Bonjour,
c'est le tout premier appel.
Vous êtes qui par rapport à Madame Boulet ?
Son fils.
D'accord. Est-ce que vous avez déjà eu des informations ?
J'en ai eu hier. Hier, on a réussi à venir la voir avec mon parrain.
Oui.
Sinon, aujourd'hui, on n'a pas eu de nouvelles. C'est pour ça que je n'ai pas eu de nouvelles.
D'accord. Qu'est-ce que vous avez eu comme information jusqu'à présent, monsieur ?
Bah, qu'elle était en coma artificiel, que bon, elle était branchée de partout, qu'il y a une machine qui l'aide à respirer, et que ça devait se stationner ou alors s'améliorer, que vous allez essayer de la réveiller progressivement pour mardi ou mercredi.
Bonjour.
nous assistons virtuellement, c'est vrai, mais nous assistons quand même au tout premier événement d'une jeune association. Elle s'appelle Réapproche. Elle a été créée pour entourer les familles pendant et surtout après un séjour d'un malade en réanimation. Parce que pour les familles aussi, l'impact psychique peut laisser des traces.
Parfait. Donc, bah, écoutez, bonjour à tous. Un grand merci d'avoir accepté d'abord de venir donc assister à ce webinaire. Je vais laisser la parole à Coralie pour nous faire part de ton témoignage et de ton vécu.
Alors, bonjour à tous, je suis Coralie Saunier. Donc, j'ai perdu mon papa Daniel le 6 novembre 2020 à l'âge de 65 ans. Donc, il est décédé des suites du Covid. La période du coma va durer une semaine, puisqu'on nous appellera pour nous dire qu'il n'y a plus rien à faire. Donc, on nous a autorisé à ce moment-là à une visite de fin de vie. Donc, ça a été un moment très douloureux parce qu'on rentre dans une autre dimension. Donc voilà, et à la sortie de la chambre, le médecin donc a pris son temps de nous expliquer la situation, ce qu'il en était à date. Et donc, elle nous a expliqué que dès notre départ, avec notre autorisation, donc, il allait débrancher les soins. Et à la demande du médecin, qui nous a annoncé le décès au téléphone, nous nous sommes rendus le lendemain à la chambre mortuaire du CHU. On nous annonce, en arrivant donc à la chambre mortuaire, qu'en tant que patient Covid, bah, c'est une mise en bière immédiate, avec scellé du cercueil, sans présentation à la famille. Ça a été terrible. On l'a vu dans cette salle de réa, dans cette détresse respiratoire, et on pensait en fait pouvoir le voir serein, en paix, beau dans ses habits qu'on avait emmenés le matin, pouvoir l'embrasser. Et au lieu de ça, en fait, on nous dit qu'il restera avec ses habits d'hôpital, dans la housse mortuaire, installé comme ça dans le cercueil. Et là, on se dit, mais comment c'est possible en fait d'avancer, de faire un deuil dans une telle situation? J'ai ce sentiment de l'avoir abandonné.
Dès cette rentrée, Réapproche va proposer un peu partout en France des groupes de parole. Ils seront ouverts aux malades sortis de réanimation, mais aussi à leurs familles, bien évidemment. Ces rencontres seront encadrées par des psychologues. Viana Buisson a fondé cette association Réapproche. Nous la rencontrons chez elle, à Lyon.
En décembre 2020, mon frère a été admis en raison donc du Covid en réanimation durant 10 semaines, où il a été intubé dans le coma. Ça a été une expérience traumatisante, pour ainsi dire, doublement. D'une part parce que nous voyons nos proches partir, et d'autre part, nous nous sentons complètement impuissants.
Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'illégitimité à dire qu'on va pas très bien quand on est un proche?
C'est le cas, parce que à la fois nous avons intrinsèquement la culpabilité de se dire pourquoi lui, pourquoi pas moi, et finalement oui, moi je vais bien quelque part, et donc du coup une forme de non-légitimité à devoir dire que ça ne va pas en tant que proche.
Est-ce que dans le parcours de soins de votre frère, et par conséquent pendant ces longues semaines pour vous, est-ce que l'un et l'autre vous avez croisé, vu, rencontré un psychologue?
Pour ma part, non. À un moment donné, j'ai dû consulter pendant le séjour mon médecin traitant pour leur demander de prendre un traitement pour rendre cette situation un peu plus supportable. À cet instant-là, c'est la seule solution que je voyais comme possible. Pour mon frère, il lui a été effectivement proposé une consultation lorsqu'il était en rééducation, mais depuis, malheureusement, il n'a pas eu d'autre accompagnement psychologique.
Vous, aujourd'hui, vous estimez que vous avez encore besoin d'accompagnement, de soutien psychologique?
Oui, je pense d'ailleurs même plus en avoir besoin maintenant qu'il y a quelques mois, c'est-à-dire que ces événements se sont déroulés entre fin 2020 et début 2021. Donc mon frère est sorti de son séjour en rééducation au mois d'avril, et je pense que c'est surtout depuis le mois d'avril où finalement on pourrait penser que les choses se sont arrangées et je devrais aller mieux, et au final c'est là où je ressens particulièrement le besoin d'être moi aussi à mon niveau accompagnée et aidée.
Interception sur France Inter.
Vanessa Descoureaux est retournée à Saint-Étienne dans la Loire, où elle s'était rendue lors de la deuxième vague épidémique parce que l'hôpital y affrontait un afflux inédit de patients. Là, les consultations de suivi post-réanimation sont menées non par des psys, mais par les médecins réanimateurs eux-mêmes. Un entretien de 2 heures avec les patients de la première vague, 1 an après leur hospitalisation.
On va le chercher ?
C'est parti.
Je suis le docteur Périnel. Je suis le médecin que vous allez voir en consultation aujourd'hui.
D'accord.
On va aller s'installer dans le bureau de consultation, ça vous va ?
Oui.
Allez, c'est parti, venez avec moi.
Ok.
Le premier patient de la journée est entré aux urgences en mars 2020 et n'est rentré chez lui qu'en novembre. Il est accompagné de sa femme pour cette consultation. Ce patient a 62 ans.
Bon, quand le Covid vous est un petit peu tombé dessus, c'était une maladie qu'on ne connaissait pas bien et qu'on ne connaît toujours pas très bien. Et donc c'est très important pour nous de refaire le point avec vous à distance et puis d'avoir à la fois votre ressenti, c'est un petit peu ça l'idée. Et on tient beaucoup à cette démarche, que la réanimation ne soit pas que de la technique et des machines, mais aussi que ce soit utile à nos patients. La première question qui se pose, c'est vous avez des souvenirs du séjour en réanimation ?
C'est le docteur Sophie Périnel qui conduit les consultations du jour.
Je me souviens du départ avec les pompiers.
Oui.
Et puis il y a le vide après.
Et alors là, aujourd'hui, dans votre quotidien, si je vous demande comment vous allez, comment vous vous sentez, vous ?
Ben, je me sens très affaibli, quoi. Bon, j'ai de la chance d'être bien entouré, quoi. Mais c'est compliqué, quand même. Et puis la marche, c'est vraiment catastrophique. Mais bon, d'où je viens, faut relativiser. On dira que c'est pas mal.
Moi, ce qui importe, c'est comment vous vivez les choses.
Ben, je sais que ça va mieux. C'est pas le Pérou, mais ça va un peu mieux, quoi. Je suis déjà très contente de ne pas sortir fou de cette affaire.
C'est aussi, je pense aussi, en plus, c'est le regard des autres aussi, quand il est en société.
Ça, oui. Ça vous gêne ?
Un peu, oui.
Oui.
Dans les conversations à 5-6 personnes, j'évite de prendre la parole.
Oui. D'accord. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez qu'on aborde plus particulièrement ?
Non, pas spécialement. J'ai surtout envie d'oublier vite ça, de tout oublier.
C'était difficile de revenir ici ?
Mais je m'en souvenais pas.
D'accord.
Je m'appelle Guillaume Thierry, je suis professeur de médecine intensive réanimation et je suis responsable du service de réanimation du CHU de Saint-Étienne.
Qu'est-ce que vous avez appris dans ces consultations sur vos pratiques ?
Alors, la première chose qu'on a apprise, c'est que le moment initial dans lequel les visites étaient interdites est un moment très porteur de traumatisme. Alors, pour les patients, un peu, mais en même temps, une partie de leur séjour en réanimation se passe sous sédation. Mais surtout les familles. Les familles et les proches ont énormément souffert de ce moment-là. Donc ça, c'est vraiment le retour quasi unanime qu'on a. La deuxième chose, c'est on observe souvent donc, que les patients sont sous sédation pendant un certain temps. Ensuite, ils se réveillent. Ils ne se réveillent pas on-off. Eux nous racontent ce qu'ils vivent de l'intérieur. Et de l'intérieur, il y a une sorte de réalité reconstruite qui est faite de morceaux de la réalité et de tout un délire assez angoissant la plupart du temps, lié à un délire d'enfermement, d'emprisonnement, de malfaisance. Enfin, et ils agrègent à ça des éléments de la réalité. Par exemple, si quelqu'un est attaché, ça renforce son idée d'être emprisonné, parce que regardez, la preuve que je suis emprisonné, c'est qu'en plus on m'attache les mains.
Or, ces patients étaient attachés, c'est ça.
Bah, certains sont attachés parce que quand ils sont vraiment très agités et qu'ils peuvent se mettre en danger en arrachant tous leurs tuyaux, on est parfois contraint de les attacher. Mais le fait de les attacher auto-entretient l'impression d'être persécuté.
Et du coup, vous dites quoi ? La contention est trop systématique ? Il faut réfléchir plus à la façon dont on le fait ? Quand est-ce qu'on le fait ? C'est un... T'interroges à quel niveau, en fait, sur les pratiques, ça ?
Ça interroge sur la question de la contention, qui est une question très complexe, mais là, on en a vraiment la traduction directe de ce que les patients nous racontent de leur vécu de la contention. Ça interroge aussi sur le rôle de la parole dans ce moment-là. C'est-à-dire que on utilise souvent pas mal de médicaments pour essayer de calmer un peu le délire ou de calmer les gens ou l'anxiété, ce qui est sans doute utile. Mais finalement, ce dont les gens se souviennent de façon positive, c'est quand quelqu'un, par la parole, est arrivé à accrocher leur récit et à gagner leur confiance, en quelque sorte.
Ça bouscule des certitudes ?
Ça bouscule pas des certitudes, mais ça pousse à une certaine humilité.
Avec toutes les pincettes d'usage, est-ce que cette crise du Covid n'aura pas servi, entre guillemets, à ça, à comprendre les enjeux psychologiques d'un tel traumatisme ?
J'espère. Il y a une expression que beaucoup de gens utilisent à l'hôpital quand on nous propose un patient en réanimation, c'est ben, peut-être il faut qu'il soit en réanimation quelques jours pour passer un cap. C'est pas la réalité. On passe jamais un cap. Les jours passés en réanimation sont très cher payés et donc il faut toujours s'interroger sur faut-il passer par cette étape-là et est-ce que vraiment, à terme, le patient veut ce qu'on va lui offrir après.
Bonjour.
Je suis le docteur Périnet.
Bonjour.
Je vais vous voir en consultation.
Bonjour.
Je vous laisse venir avec moi ?
Oui, volontiers.
Deuxième patient de l'après-midi, un homme de 68 ans, 25 jours en réanimation, 15 jours de coma. Et le docteur Périnel le connaît bien puisque c'est elle-même qui l'a intubé.
Ça va, vous allez bien ?
C'est à vous qu'il faut demander ça.
Ça va.
Allez-y, je vous en prie, installez-vous.
Merci.
Alors, comment allez-vous ?
Franchement, bien. J'ai recouvré la santé, j'ai recouvré le moral, la forme. Dès le premier mois, je me suis senti revivre. Franchement, je me sens bien, j'ai retrouvé l'appétit. Bien sûr, si on parle du côté psychologique, il y a des images traumatiques qui traversent encore l'esprit quand on voit les informations, quand on est bombardé avec les informations. Les sons, le son, je réentends des choses qui me rappellent l'hospitalisation, ça me fait un petit peu revivre. Mais j'arrive à les oublier un moment, puis ça revient. C'est des flashs comme ça, c'est des flashs. Il y a de temps en temps des petits cauchemars comme ça, ou des petits moments de panique. Mais c'est très très court. On revoit les choses, on repart en arrière, et puis on enclenche la première et on continue.
D'accord. Hop. Je vais vous faire vous allonger. Hop. Vous aviez eu l'occasion de rencontrer la psychologue du service pendant que vous étiez là ?
Non.
D'accord.
On ne l'a pas proposé.
Je vous fais pas mal, là ?
Non.
Le docteur Périnel propose à cet homme de rencontrer la psychologue du service. Il prend, sans hésiter, la carte et les coordonnées.
Merci beaucoup.
Sophie Périnel, on vient de terminer les deux rendez-vous que vous aviez cet après-midi, 2 fois 2 heures, qui, on ne va pas se mentir, étaient très denses. Quel est votre ressenti à vous sur ces moments-là de consultation ?
C'est très intense. C'est un regard qui est un regard qu'on attend beaucoup, qui est quel est le recul que le patient a, quel est le bénéfice que le patient a de tous les soins qu'on a pu lui prodiguer à un moment. À un moment, on a donné des soins qui sont clairement invasifs pour le patient et ce recul un an plus tard de voir finalement à quoi cela aboutit pour le patient dans son quotidien et quelle est sa vie après. Moi, je trouve que c'est l'élément le plus important de mon métier et c'est finalement le jugement sur notre travail qui est peut-être le plus important dans tout ça. C'est finalement en quoi j'ai été bénéfique à ce patient et cette famille.
Et en les voyant là, cet après-midi, en quoi ça a été bénéfique ? De les voir en face de vous, déjà, première chose, et le reste ?
Alors, on ressent, de par leur reconnaissance, de par leur envie de revenir, malgré le fait qu'ils disent tous que c'est difficile, le fait qu'ils viennent et qu'ils franchissent ces portes et que c'est des moments importants, on sent bien qu'il y a un bénéfice qui est attendu, et à la fois avec toutes les nuances de la vraie vie et toutes les complexités après une maladie aussi profonde. J'ai beaucoup aimé l'expression de l'épouse du patient qui dit « c'est comme un accident et ça a changé notre vie ». Et donc finalement, oui, il y a des bénéfices, mais comme tout, c'est à nuancer. Et finalement, ce qui est que moi je retiens, c'est leur plaisir d'être ensemble, leur bonheur d'être vivant et finalement leur résilience face à tout ce que ça a changé. Et ça, on peut être que humble face à ça, parce que ça, ça ne nous appartient pas. C'est leur chemin à eux et c'est très beau. Là, après un an de Covid, de les revoir un an plus tard et de voir à quel point ils ont pu récupérer, à quel point ils ont pu se réadapter et reprendre une vie, moi, j'y gagne la foi encore dans ce que je fais, parce que parfois, après une année à faire toujours la même chose, ce n'est pas toujours simple. Chaque situation nous apporte, autant sur le plan psychologique que sur le plan humain, cette humanité-là, j'espère qu'on la gardera dans le temps, et il faut qu'on la garde, parce qu'elle nous est indispensable pour faire ce métier.
Les séquelles psychologiques des patients sortis de réanimation, c'était un reportage de Vanessa Descoureaux avec une prise de son de Raymond Albouy et Jérémy Thuil. Un reportage disponible à la réécoute dès maintenant sur franceinter.fr. Réalisation Jérôme Chélius, assisté de Martine Messonnier, mixage Emmanuel Armand.